dire merci de nous avoir rejoints, alors que vous étiez il y a quelques jours aux Antilles, visitant les prieurés de la fraternité. Je crois que vous partirez quelques jours au Mexique. La première question qui nous vient spontanément à l'esprit, c'est que s'est-il passé au début de l'été ? On a parlé d'une main tendue de la part de Rome. Paradoxalement, c'était une main tendue en forme d'ultimatum. Est-ce que vous pourriez analyser ce geste du cardinal Castrillon, nous dire s'il y a du nouveau, est-ce que le ton a changé ? Merci de vous éclairer.
Il y a eu certainement un événement un peu curieux, auquel effectivement on a donné le nom de ultimatum. L'ultimatum, c'est une dernière mesure. C'est évidemment un coup de pression. J'avoue que j'étais un petit peu surpris par le fait qu'il y ait un ultimatum. Et encore plus surpris de ne pas savoir où cet ultimatum voulait conduire. Ou plutôt, j'ai bien compris que c'était il y avait une volonté là derrière de nous faire changer de chemin, le chemin que nous avons indiqué depuis bien longtemps, sur lequel nous continuons de marcher. L'ultimatum, j'ai l'impression que c'était une question de temps, d'un côté, et d'autre part, d'une manière indirecte, un mécontentement sur le fond. Alors, en fait, si vous voulez, c'est certainement une petite étape dans notre histoire. Et pour bien saisir ce qui se passe, il faut presque reprendre notre histoire, l'histoire de ces contacts romains, de ce que nous en attendons, de ce que Rome attend. C'est un petit peu tout qui est en jeu, évidemment, quand on dit un ultimatum. Ce qui est très intéressant, c'est que l'ultimatum avait deux sorties possibles, au moins c'était ainsi qu'il nous était présenté. L'une, c'était l'accord, et l'autre, c'était tout casser. Déclaration de schisme, éventuellement, quelque chose de ce genre. Alors évidemment, L'enjeu semble être important, même est certainement important, et il indique deux visions des choses. Lors de l'audience que Benoît XVI nous a accordée, lui-même a insisté sur le fait que le temps presse. Et il y a un argument objectif, c'est celui de l'avancement du temps, du changement de génération. Les jeunes générations n'ont pas connu les gloires de l'Église, si on peut parler ainsi. Celles qui sont nées dans la tradition connaissent le gentil petit monde de la tradition, si je puis dire ainsi. Ne connaissent pas nécessairement beaucoup, beaucoup plus de l'ensemble ou de la réalité de l'Église. Donc, un danger de se crisper, de se durcir, de s'éloigner. Objectivement, c'est pas faux, que ce danger existe, bien sûr, nous en sommes bien conscients et nous travaillons à le empêcher, tel le développement vers une autonomie ou une indépendance de Rome. Pour ça, nous insistons assez souvent et que nous parlons assez souvent de Rome, pour justement, il faut bien maintenir, rappeler que si on est catholique, on est romain, et si on est romain, ben, quelque part, il y a une place, et même une place assez importante, pour ce rocher sur lequel notre Seigneur a bâti son Église. Et donc, il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté-là, sinon que ça reste un argument extérieur, ça n'est pas le fond du problème. Aller vite ou aller plus lentement, tout n'est pas là, il y a un objet, et si cet objet ne veut pas suivre, eh bien on ne peut pas aller ni vite ni lentement, c'est un petit peu une question d'un orchestre, on ne peut pas demander au premier violon d'aller plus vite que tout l'orchestre, il faut que tout aille ensemble. Donc cette question du temps, pour moi, elle est accessoire. Et deuxième question qui suit celle-là, qui l'accompagne, cette fois-ci, qui touche plus directement la personne de Benoît XVI, qui n'est plus tout jeune, et qui aimerait bien régler le problème de la tradition avant de se présenter devant le bon Dieu. Est-ce que c'est un souci personnel seulement ou un souci plus grand? J'ai entendu dire, bon, mais qu'il y ait des oui dire, enfin j'ai entendu quand même à Rome, des arguments disant il faut que je règle ce problème parce que je ne sais pas ce qui va arriver après moi. Réflexion sage, intéressante. Plutôt pessimiste, à laquelle j'ai répondu, vous savez, moi je crois au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est capable d'éclairer le pape présent, il sera aussi capable d'éclairer le pape suivant. C'est dans ses mains. Et tout doit rester bien dans ses mains. Donc, une presse, il faut aller vite. Et de notre côté, plutôt sur les freins. Pas trop pressé, on n'est pas contre que ça aille vite, mais ça n'est pas du tout notre objet. Nous, il faut que ça aille bien. Alors que ça aille vite ou pas vite, pourvu que ça aille bien, c'est-à-dire juste, droitement. Et droitement, cela veut dire que tout simplement l'Église se retrouve sur ses rails. Et ses rails, c'est la tradition. L'Église a une mission. Cette mission, c'est de transmettre ce qu'elle a reçu, ce qu'elle a reçu de notre Seigneur. C'est toute la mission de l'Église. C'est ce que disait saint Paul, j'ai transmis ce que j'ai reçu. Dans la définition de l'infaillibilité pontificale, Concile Vatican I, l'Église, donc dans ce texte même qui parle de la définition, enfin de l'infaillibilité pontificale, il est dit que à Saint-Pierre et à ses successeurs, le Saint-Esprit a été promis, mais d'une manière très précise. Et non pas pour que, par une nouvelle illumination, le pape invente, innove, le Saint-Esprit, sur l'infaillibilité, n'est pas promise pour cela. Elle est promise, cette aide, Saint-Esprit, donc l'infaillibilité, pour que, sous cette aide, et avec cette aide du Saint-Esprit, le souverain pontife, et donc toute la hiérarchie de l'Église, transmettent fidèlement, conservent saintement, ce que nous appelons, ce que l'Église appelle le dépôt révélé. C'est-à-dire la révélation que l'Église reçoit comme un dépôt, et qu'elle doit conserver, et qu'elle doit transmettre. C'est tout ça, c'est toute l'histoire d'Église, c'est toute la mission d'Église. Et finalement, nous ne demandons rien d'autre à l'Église que ça. Si ça se fait, on est content. Et tant que ça ne se fait pas, on ne sera pas content. Alors, vite ou pas vite, ça ne dépend pas de nous. Alors, on pourrait leur dire, bah oui, faites-le vite. Et puis, nous, on suivra. Et donc, un coup de pression, là, tout d'un coup, là, ce mois de juin, là. Pourquoi ? Parce que... Bien, parce qu'ils ont dû sentir que nous n'allions pas assez vite. Ils ont dû sentir, ils ont eu l'impression que nous tergiversions, alors que ça n'est même pas notre calcul, que nous ne voulons pas nécessairement tergiverser ou retarder ou jouer ceux qui ont le boulet au pied. C'est pas ça le problème. Mais pour avancer, il faut aller au vrai problème. C'est ce que nous essayons de dire depuis bien longtemps, depuis l'an 2000. Nous avons exposé comme une sorte de feuille de route, on pourrait dire. Au début, bon, tout n'était pas certainement planifié. On l'a explicité un peu mieux lors du dernier chapitre. Dès l'an 2000, nous avons dit, écoutez, la manière dont vous traitez les âmes qui se sont approchées de vous, qui ont dit, on veut vous faire confiance, à vous, à Rome. Et donc, on veut être traditionnel, vous nous promettez quelque chose, on vous fait confiance. La fraternité, elle semble ne pas vous faire confiance, fraternité Saint-Pédis. Donc là, je parle des Saint-Pierre, fraternité Saint-Pierre, Christobal, et les autres. Tout le mouvement ecclésiastique. Et notre première approche devant le cardinal était de lui dire, écoutez, lorsqu'il a proposé, il dit, donc on veut résoudre votre problème, il dit, c'est gentil, c'est merveilleux, c'est magnifique, mais à voir comment vous traitez Saint-Pierre et les autres, nous, on n'est pas prêts à suivre ce chemin, on n'est pas capable de faire confiance. Et donc, pour avancer, il faut commencer par améliorer le climat, non pas simplement... question de sentiment, mais une réalité. Donc ce n'est pas une question de mots, c'est une question de fait. Que Rome fasse quelque chose de tangible, de concret, pour la tradition, en général, pas pour notre fraternité, mais pour la tradition. Et après, certainement qu'on pourra avancer. Et alors nous avons suggéré deux choses. Premièrement, la mère. Pour tous les prêtres, ça ne semblait pas si difficile, puisque nous savions qu'à Rome, bon nombre de personnalités estimaient que cette messe, la messe tridentine, n'avait jamais été abrogée. Donc c'est parfaitement légitime, on nous a souvent accusé de demander la lune ou des choses comme ça pour justement essayer de tout casser. Ce n'est pas vrai du tout, nous savions qu'à Rome, un certain nombre de cardinaux, peut-être même le pape, pensait, effectivement, que la messe n'avait pas été interdite. Alors, dites-le, appliquez-le. Si elle n'est pas interdite, ça veut dire qu'on a le droit de la dire. C'est pas si compliqué. Et puis, un deuxième point, là aussi, qui semblerait nous toucher, nous, personnellement, les évêques, mais qui est un regard beaucoup plus large, c'est cette fameuse question de l'excommunication, n'est-ce pas? Il est évident que depuis les sacres, les évêques et tous les opposants, soit à la fraternité, soit à la tradition, lancent le grand argument, la fulmination de l'excommunication pour dire ces gens-là, ils ne sont pas de l'Église, il ne faut pas les suivre, il ne faut pas accéder à leur messe, ils sont hors de l'Église, donc ce n'est plus le chemin de l'Église, ce chemin qui est suivi par la tradition. Donc nous disions, ben, retirer ça, retirer ce décret. Et puis, ça améliorera le terrain et on pourra aborder à ce moment-là les questions. Et ça fait donc depuis la fin de l'an 2000 que nous avions proposé ça, étant entendu qu'une fois que les questions ou le terrain des questions doctrinales auraient été assainies, on pourra aborder cette fois-ci beaucoup plus sereinement, beaucoup plus sérieusement. Ce qui semble être l'aboutissement, c'est-à-dire finalement bien, que l'Église est l'Église officielle, bien sûr, puisque nous disons toujours et nous maintenant que nous sommes catholiques, donc nous sommes dans l'Église, mais que l'Église officielle eh bien, nous accepte, et accepte cette tradition et la remet à sa place, qui est la sienne. c'est bien sûr un long programme. C'est, j'en vois pas d'autre, tout simplement. C'est pas très original, mais tout simplement, on va pas lâcher la foi. Il n'y a pas moyen de discuter sur la foi. Nous ne sommes pas du tout prêts à négocier la foi. Ça ne se négocie pas, la foi, tout simplement. La seule négociation possible, c'est de se faire couper la tête. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. On n'a pas le droit, tout simplement, de négocier la foi. On l'a reçu du bon Dieu. On sait que pour ainsi, on va aller au ciel. Eh bien, il faut tenir mordicus. Il faut être prêt à tout lâcher, sauf ça. Alors, bien, c'est toujours été notre politique. On est prêt à tout lâcher. On est prêt à continuer à être déclaré, excommunié, tout ce que vous voulez. Mais pas, on n'est pas prêt à lâcher la foi. Et si nous sommes là, si nous existons, c'est à cause de ça. Et du côté de Rome, on sent justement, c'est ce qu'on voit dans leur action sur Saint-Pierre, sur les autres sociétés ecclésiastiques, il y a toujours, 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 d'une manière plus ou moins explicite, plus ou moins pratique. Ce ne sera pas toujours une déclaration doctrinale qui sera demandée, ce sera des actes pratiques, comme tout simplement assister à la messe chrismale de l'évêque du lieu, qui sera une nouvelle messe, tout simplement. La foi est finalement quelque part toute la vie catholique. C'est comme un tricot. S'il y a une maille qui lâche, un tricot, on peut y aller. On ne peut pas lâcher une maille. Et la messe, c'est une grosse maille dans ce tricot. Et donc, aux abords du mois d'avril, le cardinal Castrione, qui s'occupe de nous, a donné plusieurs interviews dans lesquelles c'était manifeste, il relativisait énormément notre position doctrinale. Jusqu'à dire, mais regardez, les quatre évêques de la fraternité, ils connaissent le concile. Ils sont pour l'œcuménisme. Qui est-ce qui est contre le désir d'unité des chrétiens? Elle dit, où est-ce qu'on va maintenant là? Il y a une préparation du terrain, c'est évident. Alors, qu'est-ce qui va venir après cette préparation du terrain? J'en sais rien. Mais là, on est en train de s'engager dans un chemin qui n'est pas bon. Et forcément, de telles déclarations étaient propices à créer un certain trouble chez les fidèles qui... Je ne sais pas si vous avez pu lire ces interviews, mais si tout d'un coup on dit que les évêques de la fraternité reconnaissent le concile, on dit alors qu'est-ce qui se passe quoi? Où sommes-nous? Donc il fallait une mise au point. C'est évident qu'ils nous forçaient, par cette relativisation, à remettre quelques points sur des i. Ce que nous avons fait par notre lettre aux amis bienfaiteurs, qui n'était pas bien méchante, qui n'était pas agressive, mais enfin qui redisait les choses. Qui redisait que ma foi, le concile, c'est du poison, et que eh bien, nous ne boirons pas ce poison. Nous tenons à rester sains, même S.A.I.N. Nous espérons pouvoir y mettre un thé, mais au moins, avec ou sans thé, S.A.I.N., il faut le garder, n'est-ce pas? Saint de foi, une foi saine. Et par là, elle deviendra sainte. Mais ça les a vexés. Tout d'un coup, ils se sont rendus compte que pour nous, le concile, c'était pas matière à discussion. Et en plus, j'ai eu l'idée saugrenue de qualifier dans un serment, c'était à Saint-Nicolas, le pape régnant, Benoît XVI, de libéral. Alors il paraît que ça a été l'injure. L'injure, je ne sais pas, ils ont très 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 mal pris ça. Enfin, si on ne peut plus appeler un chou un chou. Dans la bouche, ce n'était pas une injure. Simplement dire ce qui était. C'est triste, ça me fait mal, mais c'est comme ça. Et donc, ça a été très très mal pris. Donc une convocation, où on me donne une feuille de papier, où on me dit on écrit, si aujourd'hui vous n'acceptez pas les conditions claires que nous allons vous imposer, c'est fini. Je serai obligé d'avertir vos fidèles. Jusqu'ici, je vous ai déclaré non schismatique, je ne pourrais plus le faire. Donc c'était assez fort. Hein. Et il disait, j'arrête tout, si vous ne voulez pas, j'arrête tout. Bon. J'ai essayé de leur demander quelles étaient ces conditions claires, parce que sur cette note qu'on m'a remise, il n'y avait pas de conditions claires. J'ai pas eu de réponse. Et j'ai aussi essayé de demander, alors qu'est-ce qui ne va pas dans cette lettre aux amis bienfaiteurs ? Finalement, la grande chose, c'était que j'avais dit que les couvents étaient vides. Les séminaires aussi, qu'il n'y avait plus d'école catholique. Alors ça, c'est faux. Bon. C'est le cardinal qui me le dit. Mais c'est faux, c'est pas vrai. L'école, les couvents vides, c'est pas vrai. Bon. Il m'a cité le cas de. Du séminaire de Guadalajara au Mexique, où il y aurait 2000 séminaristes, j'ai essayé de lui dire gentiment que dans ce chiffre, il n'y avait pas que les grands séminaristes, mais aussi les petits. Ils insistaient pour dire que non, que c'est pas vrai, et ainsi de suite. Alors que nous avions vérifié il y a déjà 2-3 ans en arrière, parce que c'est pas la première fois qu'on sort les 2000 séminaristes de Guadalajara. En fait, il y a 4 ou 5 ans en arrière, il y en avait 343 grands séminaristes, dont plus de 50 hors du diocèse et au moins une quarantaine de religieux. Le résultat final, c'était que chaque année, le nombre total des prêtres du diocèse de Guadalajara au Mexique diminuait. Donc c'était là, si on peut dire... On avait été assez précis dans notre vérification, peut-être qu'il faudrait recommencer. Et donc, à un certain moment, je leur ai dit, écoutez, moi, je ne sais plus quoi vous dire. Je peux me demander si je fais le temps que je voulais, si bon, ben, écoute, on arrête pas, parce que je ne sais plus quoi faire. J'ai quand même recommencé, j'ai dit, mais alors, qu'est-ce que vous attendez de moi ? Le cardinal a dit, bon, ben, si vous estimez devoir dire ça en conscience à vos fidèles, bien faites-le. Mais il faut respecter la personne du pape. Bon, pas de problème pour ça. On n'a pas du tout l'intention d'injurier le pape. On n'est pas comme ça, quoi. C'était un peu bizarre, vraiment. Tellement bizarre que quand je suis sorti, j'ai dit à la Bénélie qui m'accompagnait, Je suis frustré parce que j'ai l'impression d'un côté qu'il y a une grande mise en scène, c'est pas un ultimatum, tout ça, on casse tout, c'est fini, et puis sans objet sérieux. J'ai l'impression de dire, alors qu'est-ce qui se passe, quoi? Il suffit de dire maintenant, je reste sage, et puis tout est en ordre, tout est réglé. Et non, je continue comme ça, et puis tout est fini. Ça tient pas debout, cette histoire. J'ai renvoyé M. l'abbé Lévy le lendemain pour que, une troisième fois, on redemande, enfin, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Et c'est là qu'on nous a donné 5 points qui ont été publiés ensuite sur l'Internet. Je pense que ça fait partie d'un ensemble. Cette publication, c'était pas seulement l'Internet, c'était un journaliste italien proche d'Ecclesia Dei qui, tout d'un coup, a lancé la nouvelle. Donc, vraiment, dans le monde de la presse, voilà, il y a un ultimatum qui fait la fraternité. Jusque-là, c'était tranquille. Bien sûr, après ça... ça a chauffé un petit peu. Mais encore une fois, bizarre. Je pense qu'il y avait eu effectivement une manœuvre, disons, politique, pour essayer de nous effrayer, pour essayer de nous faire, je sais pas, céder dans la foulée. Et puis, évidemment, nous avons répondu, on a demandé une lettre au pape, nous avons écrit une lettre au pape. Dans une première partie, nous avons tout simplement repris une autre lettre au pape. C'était une lettre de Mgr Lefebvre. C'était la lettre qu'il avait adressée à Paul VI en réponse à l'ultimatum de Paul VI. Donc j'ai repris tout simplement les mêmes termes, j'ai même fait la référence. Et ensuite j'ai développé les choses plus actuelles aujourd'hui. J'ai dit, si vous trouvez que notre attitude est un peu rêche, essayez de voir le cri de douleur d'une partie du corps mystique qui est profondément blessé dans sa foi par le concile et les réformes post-conciliaires. Et ensuite j'ai insisté sur cette question du retard ou disons de la non-précipitation en disant que l'idée était celle-ci, regardez à quelle vitesse vous pouvez avancer vous-même avec le motu proprio. Si ça va pas plus vite avec vous, le grand chef, comment voulez-vous que ça aille vite avec nous? Si les évêques ne sont pas prêts de recevoir les ordres du pape au sujet du motu proprio, comment ces évêques nous recevraient-ils, nous, au moment où le pape disait maintenant il faut les accueillir? D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir. À Lourdes, il a dit qu'il fallait recevoir tout le monde, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment ça s'est passé aujourd'hui à Lisieux. Il y a quand même des progrès, il ne faut pas voir tout en noir. Mais on voit très très bien que ça ne va pas vite. Et donc, nous ne sommes pas prêts à faire un saut dans le vide sans filet. Ça, c'est bien, il n'y a pas question. Jusqu'ici, on voit bien que c'est un véritable combat. D'ailleurs, on a toujours appelé ainsi, pour la fois. Et c'est vraiment, c'est comme ça. Nous avançons dans un terrain miné. Alors, comment vous voulez courir dans un terrain miné? C'est le meilleur moyen de se démolir. Moi, je suis, en fait, je suis très, très optimiste, mais je vous garantis absolument aucun succès pour demain. Pour un après-demain assez lointain, oui, je suis sûr de la victoire, mais entre deux, je peux vous garantir encore quelques belles bagarres, quelques belles souffrances et quelques belles douleurs.
Monseigneur, vous insistez beaucoup donc, sur ce combat de la foi, et à Saint-Malo, à l'occasion de la procession du vœu de Louis XIII, vous avez donné un sermon où vous repreniez tout simplement l'engagement du baptême. Que demandez-vous à l'Église? La foi. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous entendiez lorsque vous avez dit cela? Et au cours du sermon, vous avez même répondu, on peut dire, au reproche qui vous était fait. Vous avez dit effectivement que le pape, après les déclarations qu'il avait faites aux États-Unis, était de facto libéral sur la question de la laïcité. Alors vous disiez dans ce sermon, répondant à ce reproche qu'on vous faisait, vous disiez non, ce n'est pas nous qui jugeons. Est-ce que vous pourriez dire, alors pas qui juge le pape, c'est pas vous qui jugez. De nouveau, il suffit de revenir sur cette mission de l'Église, qui donne tout à l'Église. Il y a un grand principe de philosophie, moi je vous donne en latin, c'est très concis, societates sunt ut fines. C'est-à-dire que les sociétés sont comme leur fin. Une société sera organisée, aura sa structure, aura ses moyens, et tout cela est dirigé par la fin, par le but de cette association, de cette organisation. Et c'est vrai pour tout groupe humain, et c'est vrai aussi pour l'Église. La différence, c'est que le but de l'Église, il a été imposé par notre Seigneur Jésus-Christ.
qu'il a aussi donné sa structure, ce qu'on appelle la constitution divine de l'Église, qui lui a donné les moyens pour arriver à ce but. Et le but, bien, c'est de sauver les âmes. Et les moyens pour arriver à ce but, c'est tout d'abord, fondamentalement, la foi. Sans la foi, il est impossible d'être sauvé. Il est impossible de plaire à Dieu, il est impossible d'aller au ciel. C'est l'Évangile, ça a été repris par Vatican I, dans sa deuxième, c'est la première constitution, justement sur la foi. L'Église insiste beaucoup là-dessus, la foi, c'est fondamental. Mais c'est vraiment fondamental. C'est Dieu qui parle. Dieu qui parle de lui. Et qui nous dit, ben, je veux vous sauver. Mais vous sauver, ça veut dire vous communiquer mon propre bonheur. Et mon propre bonheur, ça consiste à me voir comme je suis. Pour ça, je dois vous tirer de cet état de créature beaucoup plus haut, au niveau même de Dieu. On pourrait dire, en gros, je dois vous donner mes yeux. Il faut que vous me voyez à travers mes yeux. Ce sera ce qu'on appelle la lumière de gloire. Et ici-bas, sur Terre, ça s'appelle la foi. C'est une connaissance surnaturelle, c'est-à-dire qui dépasse toutes les capacités humaines. Et qui ne peut venir que de Dieu. C'est Dieu qui se penche sur nous. Nous sommes absolument incapables de cela. Qui se penche vers nous, qui met dans notre tête, qui infuse une capacité de connaissance, qu'on appelle la vertu de foi, et il n'y a que Dieu qui peut le faire. Les hommes, même les meilleurs, les plus sages, ne pourront jamais faire ça. C'est que Dieu qui peut le faire. C'est Dieu qui nous donne la capacité, Dieu qui nous donne l'objet de cette connaissance, et qui nous donne la lumière nécessaire à saisir, à recevoir cet objet. Cet objet, on l'appelle aussi la foi. Donc vous voyez, partout, on appelle la foi. Et bon, on peut distinguer la capacité, qui est la vertu de foi, l'objet, qu'on appelle tout simplement la foi catholique, c'est-à-dire cet ensemble de vérités qui sont résumées dans le credo. Et en plus, eh bien, il faut une illumination, l'acte de connaissance, comme tout acte de connaissance a besoin d'une lumière. Eh bien, l'acte de foi a besoin d'une lumière surnaturelle. C'est la lumière du Saint-Esprit. On ne se rend pas assez compte de ça, mais le moindre acte surnaturel a besoin requiert une intervention du bon Dieu. Il est tellement proche de nous, on ne s'en rend même pas compte. De ce petit acte, je crois en Dieu, eh bien, on ne peut pas le poser si le bon Dieu n'est pas là pour nous donner cette lumière. C'est extraordinaire de voir cette intimité, cette proximité du bon Dieu. Eh bien, le bon Dieu a confié toute cette transmission de ce moyen aux âmes pour les sauver à l'Église. Et c'est pour ça que la toute première question du baptême, que demandez-vous à l'Église? La foi. Que vous procure la foi? La vie éternelle. Si vous voulez la vie éternelle, suivez les commandements et tout est là. Tout est déjà là. On voit toute la mission de l'Église qui est déjà rappelée au premier pas d'un être humain, une créature qui s'approche de l'Église, parce que bien déjà, elle a déjà reçu un coup de pouce du bon Dieu qui lui dit ben, « tu veux te sauver, il faut passer par là ». Il n'y en a qu'une, c'est évidemment, il n'y a qu'un être créé qui peut avoir une telle capacité, et c'est l'Église catholique, il n'y en a pas 36. Donc, ce qu'on demande, c'est ça, simplement. On suit notre catéchisme, on suit les toutes premières questions du catéchisme. On sait que ça commence par là, et c'est ce qu'on demande. On sait que le reste va suivre. Il y a un deuxième moyen. La foi toute seule, ça ne suffit pas. Il faut la grâce. Cette grâce qu'on appelle d'un mot si beau, sanctifiante. Sanctifiante qui rend saint. La grâce qui fait les saints. Et cette grâce nous est donnée au baptême. C'est la grâce qui nous fait enfants de Dieu, qui nous communique une participation vraie à la vie de Dieu. C'est tellement beau, c'est tellement saint, et cette vie de Dieu nous est communiquée d'une manière, la manière la plus ordinaire, par les sacrements. Encore une fois, ces sacrements, ce n'est pas l'Église qui les a inventés, ils ont été confiés par notre Seigneur à l'Église. Et c'est par là, par ces deux moyens, on peut dire, fondamentaux, que l'Église atteint son but. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle la prédication, par laquelle l'Église préparera les âmes, les disposera à la réception de la foi, les nourrira et à la réception des sacrements. C'est vraiment le béaba, c'est le béaba de l'Église. Mais on voit, dans tout ça, c'est un regard purement surnaturel, c'est un regard sur le bon Dieu. Et puis, voilà, le but de l'Église, il est là. Et ensuite, pourquoi des lois dans l'Église? Pourquoi la hiérarchie? C'est toujours pour ce but. Et l'Église, jusque dans le nouveau droit canon, aura encore cette sagesse de nous dire que la loi suprême, c'est le salut des âmes. Ce petit canon, enfin, on appelle le canon les lois de l'Église, c'est le tout dernier du nouveau, enfin, dans le nouveau droit canon. Qu'est-ce qu'il dit avec cela? Eh bien, il dit que toute loi dans l'Église n'a de force que si elle correspond à ce principe. S'il arrive, par une quelconque circonstance, qu'une loi de l'Église ne remplit plus cette fin, eh bien, elle est au moins suspendue, sinon caduque, bon, ça dépendra des cas. En tout cas, il ne faut pas la suivre. Ça, c'est très clair, parce qu'on va causer, on va faire quelque chose qui est directement opposé au but de l'Église. On va causer un dommage aux âmes, on va faire le contraire de ce pourquoi l'Église est là. C'est tellement simple, c'est tellement évident tout ça. Et puis aujourd'hui, eh bien, c'est oublié. Pourquoi? Parce que l'Église s'est plongée dans toutes sortes de problèmes humains. Elle a voulu devenir humaine alors qu'elle était divine. Ça ne veut pas dire qu'elle a perdu, elle a toujours ses moyens, mais elle les a mis de côté, oubliés, dilués, pour plaire aux autres hommes. On voit toute cette attitude, tout ce chemin de la foi. Si vraiment il faut la foi pour être sauvé, eh bien l'Église doit la prêcher. Et doit la prêcher sans dilution, puisque la moindre dilution risque de faire tout perdre. L'attitude avec les autres religions, l'attitude avec ceux qui sont dans l'erreur, vous voyez tout de suite qu'elle est radicalement différente si vous avez pour but « il faut que je sauve cette âme » ou si vous avez pour but « oh, il faut quand même qu'on arrive à s'entendre ici sur terre ». Ce ne sera pas du tout la même chose. Or, depuis le Concile, on sent bien que la dimension humaine, Jean-Paul II aimait utiliser le mot anthropologique, anthropocentrique, on centre sur l'homme. Anthropos, en grec, c'est l'homme. Alors, on centre sur l'homme. Nous, l'Église, il est centré sur Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'homme devant Dieu? Créé de rien. Tout ce qu'il y a dans l'homme vient de Dieu. Tout ce qui est bon dans l'homme vient de Dieu. C'est Saint Paul. Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Qu'as-tu du bien que tu ne l'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier? Tout est là. Reconnaître le Créateur, tout suit. C'est un peu une fois. Mais vous voyez que quand je vous développe ces quelques idées-là, tout se remet en place. Mais cette perspective, cette vision des choses, c'est plus seulement la vision catholique, malheureusement, elle n'est plus partagée par, ben je ne sais pas trop combien dans l'Église. Quand on regarde les sondages, ce serait intéressant de faire une fois un sondage des évêques. Je ne sais pas ce que ça donnerait, mais en tout cas, un sondage au niveau des fidèles, c'est pas glorieux, hein. C'est vraiment pas glorieux. Quand on pense ici en France, on a demandé aux catholiques pratiquants ce qu'ils pensaient, si toutes les religions se valaient. Eh bien, il y avait plus de catholiques pratiquants, il y avait 62%, je trouve ça, qui pensaient que toutes les religions se valaient, on arrive à se sauver un peu partout, que les non-pratiquants. Les non-pratiquants étaient plus catholiques que les pratiquants. Non, c'est pour vous dire. Et plus de la moitié sur des questions aussi fondamentales. Écoutez, depuis Rome, les textes sortent, les pratiques sortent, cet œcuménisme et tout ça, qui constamment font penser que toutes les religions se valent. De temps en temps, on sort un texte où on dit le contraire, on dit bien sûr qu'il n'y a qu'une seule Église, et tout de suite après, on met une dilution assez forte pour dire que oui, mais quand même, le Saint-Esprit, lui, se sert aussi des autres religions, et où il y a des valeurs de salut. Qu'est-ce que ça veut dire, des valeurs de salut? Regardez une voiture, une splendide voiture, alors, qu'est-ce qu'on va prendre, une Ferrari. Il manque juste le moteur. Mais tout le reste y est. Alors vous pouvez faire la liste, hein. Regardez voir, c'est un volant formidable, la peinture, la clé splendide. Vous pouvez faire toute la liste. Il y a des valeurs dans cette Ferrari, mais oui, évidemment. Mais elle ne marchera pas. C'est simple, elle ne marchera pas. Bien, les religions autres que la religion catholique sont des religions où, évidemment, il y a des valeurs. Bien évidemment, seulement, ce sont des religions qui ne marchent pas. Ou plutôt, si vous voulez, qui ne font pas marcher, qui ne conduisent pas les âmes au ciel, qui en sont fondamentalement, radicalement incapables, parce que ce sont des inventions humaines. C'est tout. Ça peut choquer les écuménistes, mais c'est comme ça. Notre Seigneur n'a fondé qu'une seule Église, et c'est l'Église catholique. C'est tout. C'est pas compliqué, de nouveau. Mais vous voyez, les grands disent ça. Je ne suis pas sûr que Rome soit tellement content quand je dis ça. Pourtant, je ne dis rien que ce qui était dans le catéchisme, ce que l'Église a toujours enseigné. C'est pas moi qui juge, absolument pas. Je sors tout simplement mon petit catéchisme, et puis je dis, c'est ça que j'ai dû apprendre pour passer mon examen de première communion. Qu'est-ce que vous racontez là? Ça colle pas. Ce que vous dites aujourd'hui, ça correspond pas. C'est pas moi qui m'érige en juge. C'est déjà jugé, c'est là. Et d'ailleurs, toutes ces thèses modernes sont déjà même condamnées. Alors qu'ils nous expliquent comment ils ont réussi à faire un cercle carré. Pour nous, le cercle carré, ça n'existe pas. Eux, il semble qu'ils ont réussi un truc pour en faire. Et évidemment que ça ne marche pas. Mais ça crée forcément des tensions, des problèmes, des troubles. Surtout qu'ils ont l'autorité, ils sont bien conscients. Et dès qu'on essaie de discuter, eh bien c'est le rappel à l'ordre. C'est une question très très délicate, très très compliquée d'un côté, puis de l'autre côté très simple. Le compliqué, c'est le côté obéissance, soumission. Prenez un navire de guerre. Supposez tout d'un coup que le capitaine, par je ne sais trop quelle circonstance, se trouve kidnappé, se trouve dans les mains ennemies, qui le forcent à donner des ordres qui, s'ils sont suivis, démolissent le bateau. Que vont faire les matelots? Que vont faire les sous-officiers dans ce bateau? C'est pas évident du tout. Parce qu'immédiatement, on va parler de mutinerie, etc. Mais quelque part, il faut quand même revenir au bon sens. Démolir le bateau au nom de cette obéissance, ça n'a plus de sens. Parce que s'il y a une obéissance, c'est précisément pour le bien du bateau, et pas le contraire. Bon, bien sûr, c'est tout ce problème de l'obéissance qu'on trouve ici. Et au niveau de la foi, c'est peut-être même plus facile qu'au niveau, disons, de l'armée. C'est-à-dire que bien, personne n'a le droit de faire du mal à son âme, personne n'a le droit de heurter un commandement de Dieu. Si le capitaine du bateau qui est l'Église a des pouvoirs mais très très grands, pouvoirs suprêmes sur tous les membres du bateau, c'est qu'il a eu ce pouvoir d'en haut. Et ce en haut, c'est Dieu, notre Seigneur. Il est tellement haut qu'on l'appelle le vicaire du Christ, celui qui prend la place, le représentant du Christ. Mais il n'a pas le droit de dire autre chose que ce qu'il utilise. Le Christ, c'est son représentant, mais s'il commence à dire autre chose ou le contraire du Christ, alors on l'appelle anti-Christ ou anti-Christ, si vous voulez. C'est-à-dire, il est le contraire du Christ. C'est des choses gravissimes, évidemment. Et ben, vous savez que cette parole, antéchrist, on le trouve dans l'Écriture sainte, d'abord. Et puis ensuite, Monseigneur Lefebvre l'a utilisé au moment des sacres pour expliquer pourquoi il fallait sacrer. Parce qu'on se trouve dans une époque où tout d'un coup, eh bien, ceux qui devaient donner les ordres, qui devaient être le reflet de notre Seigneur, faisaient le contraire. C'est une période dramatique. Dramatique. Encore une fois, on n'a pas le droit d'approcher notre Seigneur, ça ne va pas. Et en plus, au nom d'obéissance. Et c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous continuons de vivre. D'une certaine manière, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des choses qui se sont améliorées en même temps que d'autres choses continuent dans ce même sens. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que si on insiste sur les bons côtés, et il faut les reconnaître, les bons côtés. Mais si on insiste trop là-dessus, ben on ne verra plus que les bons côtés, on dira, ben alors pourquoi pas faire d'accord? Et ben on dit, ben voilà, ben, malheureusement, il y a le reste. Il y a le reste. Si vous voulez, c'est comme si donc, le capitaine du bateau commençait à donner des bons ordres, mais tout en maintenant les autres. Alors, ça accroît encore la confusion. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais encore une fois, ce n'est pas nous qui décidons. Nous avons, Dieu merci, un magistère de 2000 ans, qui pendant ces 2000 ans a été fidèle, a été l'écho de notre Seigneur, qui a parlé, on peut dire la plupart des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, ils ont déjà été résolus. Les erreurs, ou ce que nous avons à nous à condamner comme erreurs, ont déjà été condamnés par ce magistère. Donc c'est relativement facile, c'est pas nous qui avons besoin de cogiter beaucoup pour dire attention, là ça va pas parce que non, l'Église a déjà parlé. Dieu merci, c'est quand même plus facile. Et ça nous permet comme ça vraiment d'éviter cet argument qu'on nous jette facilement à la tête, c'est de dire, ben vous faites tous les protestants, vous vous érigez en juge suprême, vous placez au-dessus du pape. Mais non, c'est pas vrai. Seulement, ça n'est pas vrai. Et c'était aussi l'argument de Paul VI à Mgr Lefebvre, lorsque, dans l'audience, vous voulez prendre la place. Bon, j'ai dit, mais surtout pas. Non. Et Mgr Lefebvre lui disait, mais écoutez, vos prédécesseurs ont dit quelque chose, ils ont condamné la liberté religieuse. Vous l'enseignez, alors à qui faut-il obéir? À vos prédécesseurs ou à vous? On ne peut pas vous dire en même temps, ça ne va pas. Et il faut aussi se dire, on n'est pas ici pour faire de la théologie. En gros, si vous voulez, on pourrait dire qu'on est toujours devant ce même problème. On est toujours devant ce même problème. D'une part, on comprend bien que l'autorité peut difficilement accepter d'être mise en question. Et pour nous, c'est très très difficile de dire « descendez dans l'arène, hein, on veut se cogner c'est presque impossible, je dirais même, parce qu'on ne peut pas tout d'un coup nous prétendre nous monter au niveau seulement de la hiérarchie ou du pape. Mais par contre, on peut lui dire « écoutez, là, il y a un grave problème, c'est vous qui l'avez causé et c'est vous qui pouvez le résoudre. Vos prédécesseurs ont dit cela, vous dites le contraire, le bon Dieu nous a donné une raison, il nous a donné la foi, c'est à vous d'expliquer pourquoi et comment il faut vous suivre maintenant. Vos prédécesseurs ont dit le contraire. Et en disant ça, on les oblige non pas à descendre à votre niveau, mais de leur niveau à nous éclairer. Et encore une fois, ça, l'argument de dire obéissez, soumettez-vous, sans donner de raison, à ce moment-là, n'est pas juste.
Le bon Dieu nous a donné une intelligence, il nous a fait comme ça, il y a une raison. La foi élève l'intelligence, elle ne la détruit pas, elle ne la rend pas aveugle. Et donc si l'Église veut nous faire adhérer à une connaissance, à un principe, à une nouvelle discipline, ça doit être raisonnable et en plus éclairé par la foi. Et ça ne peut pas être déraisonnable. Ça ne va pas. La foi ne rend pas idiot. Si, au nom de l'obéissance, on nous oblige à faire des imbéciles, eh bien, au nom de la foi et au nom de la raison, il faut dire non. Même si ça fait mal. C'est pas une prétention personnelle. C'est seulement le bon Dieu qui nous a fait comme ça. Et on voit que l'Église a toujours eu ce souci, en apportant la foi, de donner des arguments qui montraient que c'était raisonnable de croire. On sait bien que l'acte de foi, il dépasse la raison. Ça, c'est vrai. Mais il ne la contredit pas. Même dans les choses les plus sublimes, comme la Trinité, trois personnes, un seul Dieu. Quand on voit comment, par exemple, les musulmans comprennent ça, évidemment, ils comprennent tout de travers, parce qu'ils mettent au même niveau les deux. Alors là, ça devient une contradiction, mais justement, l'Église a eu le soin de nous montrer que non, c'est pas contradictoire. Et on voit que même lorsque notre Seigneur oblige ou requiert l'adhésion, donc cette soumission à la foi, il a fait tellement de miracles autour pour nous montrer que c'était raisonnable d'accepter ces vérités. Un des plus beaux, c'est celui du paralytique, n'est-ce pas ? Là, il voit une belle foi, il n'y a pas moyen de rentrer dans la maison, c'est tellement bourré de monde, plein de monde, alors on enlève les tuiles, on descend le paralytique par le toit. Et le Seigneur lui dit, tes péchés te sont remis. Ah ! Là, disons, la démonstration, elle est difficile, n'est-ce pas ? Tes péchés te sont remis. Réflexion des scientifiques de l'époque, enfin des spécialistes religieux, des experts en religion, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Pardonner, il n'y a que Dieu. Réponse de notre Seigneur, qu'est-ce qui est plus facile de dire ? Tes péchés te sont remis, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, ou bien lève-toi et marche. Est-ce que parmi les hommes, quelqu'un est capable de faire ça ? Évidemment, non, il n'y a que Dieu. Donc celui qui est capable de dire lève-toi et marche, il est Dieu. Et celui-là, il peut aussi dire, tes péchés te sont remis. Et on voit que comme ça, notre Seigneur fait avancer. Et là, bien, tout d'un coup, on dit, ah ben voilà, donc notre Seigneur, ben, il est Dieu. On voyait un homme, il est Dieu, il en a donné une preuve. C'est une preuve qui n'est pas au même niveau que la foi. C'est une preuve qui est au niveau de notre raison, mais qui nous montre que la foi est raisonnable. Les plus forts arguments, on appelle ça l'apologétique, justement, qui amène l'âme à la foi. Ce sont ces arguments des miracles, c'est-à-dire qui dépassent les capacités humaines, et des prophéties. Dire une chose contingente, qu'elle va arriver, et même des siècles après, ça les hommes ne le peuvent pas. Et ce sont les deux plus forts arguments qu'utilise l'Église, qui nous a toujours utilisés pour bien montrer que si, notre Seigneur, il est vraiment Dieu. Une fois que vous avez établi la divinité du bon Dieu, de notre Seigneur, tout le reste suit son enseignement, donc on est obligé de le croire, on est obligé de le suivre, ses commandements, on est obligé de lui obéir. Et lorsqu'il dit, celui qui croira et suivra ses commandements sera sauvé, donc celui qui croira sera baptisé et sera sauvé, il faut le croire. Il a aussi dit que ceux qui ne croiraient pas, ils sont déjà condamnés. Il l'a dit. Et ça, aucun homme ne peut l'effacer. Ils ont beau avoir des mitres, des calottes rouges, blanches, toutes les couleurs que vous voulez, ils ne peuvent pas changer cette parole. C'est le Dieu qui l'a dit. Et c'est ainsi. C'est une obligation de foi de l'accepter comme ça. C'est tout. Et si on le lance à la figure, évidemment, on va paraître irrévérencieux. C'est vrai. On va essayer de garder le maximum de révérence, mais on maintient l'objection. C'est le patron qui a parlé. Les sous-chefs n'ont pas le droit de dire le contraire. Et donc, bien non, ce n'est pas nous qui les jugeons. Je crois que c'est vraiment très important de se dégager de cette accusation qu'on nous sort tout le temps. Vous vous mettez au-dessus du pape, vous vous mettez en contraposition à l'Église. C'est vrai que lorsqu'on parle, on est bien obligé d'exposer les choses. Et quand on expose les choses, on montre qu'il y a deux côtés, deux camps. Ce n'est pas qu'on le veut, c'est une réalité. On essaie de décrire une réalité. Ce n'est pas facile. C'est vraiment pas simple. C'est un grand, grand mystère que nous traversons. C'est vraiment, si vous voulez, je crois que c'est vraiment au même niveau que les plus grandes adhésions que Dieu requiert à l'homme, comme on trouve dans la Sainte Eucharistie, qu'on trouve dans la passion et l'amour de notre Seigneur. C'est accepter deux choses qui, à notre niveau, semblent contradictoires. L'hostie, nos yeux, toute démonstration scientifique va nous dire « mais c'est du pain, il y a la couleur, il y a la forme, il y a tout ce que nos sens peuvent nous en dire, ils nous disent « mais c'est du pain ». Et la foi, elle dit « c'est pas du pain ». Il y a une solution, on la trouve justement au niveau de la foi. Il dit attention, la substance a été changée, le reste il est bien resté. Donc il y a bien toutes les apparences du pain. Le goût, la forme, le poids, c'est tout, c'est du pain. Et ce qui faisait que c'était du pain, c'est ça qui a été changé. Transsubstantié, c'est un mot très technique. La substance du pain est devenue substance du corps de notre Seigneur. La substance, ça ne se voit pas. La substance du corps de notre Seigneur, elle ne se voit pas. Et pourtant, c'est vrai. C'est impressionnant. La passion de notre Seigneur. Notre Seigneur, alors voilà, on l'a reconnu comme Dieu. Et vous voyez ça, cette question de la passion, on la trouve dès le départ, dès la première fois que notre Seigneur va annoncer ses souffrances. Ça se passe juste après la confession de Saint-Pierre. Là aussi, la première fois que Saint-Pierre, au nom de tous les apôtres, s'engage et dit « ben, vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes vraiment Dieu, le Fils du Dieu vivant ». Juste après, notre Seigneur leur annonce qu'il va souffrir, qu'il va mourir. Alors Saint-Paul, Saint-Pierre, enhardi par son premier résultat, là, pour faire examen, il dit « non, ça ne passera pas comme ça ». Ouh là là, la bouche. Valet rétro, Satan. Retire de moi, Satan. Vous voyez, il ne pouvait pas accepter. Mais on vient de vous dire que vous êtes Dieu. On vient de vous reconnaître comme Dieu. Dieu, ça veut dire tout puissant, ça veut dire éternel, ça veut dire qu'il ne peut pas mourir, qu'il ne peut pas souffrir. Il a tous les pouvoirs, il est tout puissant. C'est lui qui a tout créé. Et voilà que le Seigneur dit, ben voilà, je vais être flagellé, je vais être condamné, je vais mourir. Et c'était insupportable. Et quand ça s'est passé, ben, ça a été insupportable. Les pauvres apôtres ont été vraiment malmenés. Hein. Et pourtant, voilà, ben, la foi oblige à prendre les deux bouts. Et aujourd'hui, c'est la même chose. À l'autre niveau, au niveau du corps mystique, au niveau de l'Église. D'un côté, il faut la dire, comme nous lisons d'une manière habituelle, elle est divine. Comme nous disons dans le credo, on dit elle est une, elle est sainte. Puis après, quand on voit tous les jours, on dit, oulala, fou, la sainteté, l'unité, ça part dans tous les sens. Et oui. Il faut maintenir. D'un côté, il ne faut pas nier cette douleur, il ne faut pas nier la crise dans l'Église, puisque c'est une réalité qu'on constate. Il ne faut pas la nier, ce serait inhumain. Il faut respecter la réalité. C'est une donnée qui est là, pas la nier. Il ne faut pas appeler à cause ou parce que ça se passe dans l'Église tout d'un coup bon, ce qui est manifestement mauvais. Un sacrilège, c'est un sacrilège, il ne faut pas l'appeler bon, ça ne va pas. Oui, mais c'est le pape qui a parlé, ou je ne sais pas, c'est tel évêque qui a décidé que, ou c'est le curé qui veut absolument donner la communion dans la main. Je suis désolé, mais non, ça ne va pas. Et il y a ces deux côtés. Il y a ce côté de la divinité de l'Église, il y a ce côté, donc, le pape, c'est le vicaire de Jésus-Christ. Les évêques, ce sont ceux qui ont été institués de droit divin comme responsables devant Dieu de toutes les âmes de leur diocèse. Ils en répondent devant Dieu, quel que soit leur nom, quel que soit ce qu'ils font. Lorsqu'ils apparaissent devant Dieu, ils répondent. Pas tout à fait. Et ils ont tous les pouvoirs, le bon Dieu leur donne ces pouvoirs de sanctifier. On a un peu perdu. Mais je vous dis, c'est le même problème, la même épreuve, dure, extrêmement dure. Je dirais, on n'était pas au moment des apôtres au pied de la croix. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on ferait mieux. Il faudrait faire mieux qu'eux. Et voilà, ben nous, on a une épreuve un peu semblable, analogique. On peut dire, sans trop se tromper, que à peu près tous les hommes qui ont l'usage de la raison, à un certain moment de leur vie, passent par une épreuve de la foi. Leur foi est mise à l'épreuve. Et ça, c'est une question personnelle. Cette fois-ci, on a un problème un peu plus gigantesque, un peu plus grand, parce que c'est une épreuve de foi qui touche, je veux dire, toute l'Église. On voit un corps organisé, sacré, qui est dans des souffrances, qui fait des bêtises. Bon, c'est bien sûr, après on distinguera, on dira, c'est pas le corps, ce sont les membres qui dévient. Alors, ce sont des membres importants. Et là aussi, comment expliquer tout ça? Eh bien, il ne faut pas rester au niveau de la raison, il faut monter plus haut, il faut se regarder de foi, il faut accepter qu'on n'a pas toutes les explications. On espère qu'un jour l'Église nous les donnera, mais le fait qu'on n'ait pas toutes les explications ne nous permettra jamais de dire que ce qui est bien est mal, que ce qui est faux est vrai. Et là, ma foi, il faut s'accrocher. Pour nous, vraiment, nécessité de nourrir cette foi, de rafraîchir assez souvent en relisant le catéchisme, en relisant les bonnes encycliques, surtout celles qui parlent de notre temps, qui parlent de ces questions, pour essayer de garder la tête aussi claire que possible. Il faut que nous soyons convaincus. C'est un combat difficile. Il faut vraiment cette conviction d'âme. Sinon, on risque d'être troublé ou de prendre des chemins de facilité. C'est tellement plus facile de dire, c'est le pape qui a parlé, je suis. N'est-ce pas? J'avais entendu un professeur de dogmatique, un carme, qui disait, c'était à Rome, je préfère me tromper avec le pape. Ben, il a tout dit, hein. Ça veut dire je préfère un cercle carré. Et on lui dit, ben, ça tourne par an.
Monseigneur, nous allons devoir nous séparer dans quelques instants. Je voudrais vous poser une question qui nous est posée souvent à nous qui sommes attachés à la tradition, qui comprenons le combat que mène la fraternité Saint-Église. Vous avez répondu à une objection qui aussi est souvent formulée, elle, par les conciliaires, à savoir vous jugez le pape. Il y en a une autre qui est souvent posée aussi, pourquoi pas, puisque vous venez de reconnaître vous-même qu'il y a une certaine avancée, que le pape s'est engagé avec le motu proprio, qu'à ce titre-là, il rencontre une certaine opposition, pour ne pas dire une opposition certaine, de la part des évêques. Alors pourquoi pas faire le choix de ces accords pratiques, à savoir rentrer dans ce périmètre visible, comme disait quelqu'un, et de l'intérieur, aider le pape, pousser dans le bon sens. Cette objection, nous l'entendons. Qu'est-ce que vous répondez?
Mais tout d'abord, je regarde ce qui se passe. Certainement, le motu proprio, prier en soi, est une bonne chose parce que c'est une loi. Il y a une question de droit qui a été rétablie. Au niveau du droit, il y a quelque chose de magnifique qui s'est passé et qui, je pense, vraiment tient un miracle. Quand on voit l'ensemble des circonstances dans lesquelles on se trouve et quand on voit ce que vraiment le pape a dit, humainement, ça tient du miracle. Enfin, peut-être même divinement. C'est-à-dire que ça dépasse l'ensemble des conditions humaines. Que Benoît XVI déclare que la messe n'a jamais été abrogée. Mais quand on dit d'une loi qu'elle n'est pas abrogée, ça veut dire qu'elle est restée dans l'état où elle était avant. Or, l'état de cette loi, c'était qu'elle était la loi universelle de l'Église. Et on voit très très bien dans une des conséquences que le pape tire dans le motu proprio lui-même, qu'il reconnaît ce caractère universel à la loi tridentine, c'est-à-dire à la messe, de toujours, puisqu'il dit que tout prêtre, bon, et là il parle, il dit en privé, enfin, c'est une circonstance, je veux dire, en privé, tout prêtre a le droit de choisir, bon, on dirait, bien sûr, l'autre, on ne pouvait pas trop la choisir, la nouvelle messe, mais enfin, il dit qu'il a le droit de choisir entre la nouvelle et l'ancienne, ça veut bien dire qu'il les met au même niveau, et que pour ce choix de l'ancienne messe, il n'a besoin de la permission de personne, ni de l'évêque du lieu, ni du Saint-Siège. Il le dit. Alors bien sûr, après, il y a tout un tas de problèmes concrets, parce que là, il y a deux lois universelles. Enfin, je vais dire un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une loi, peut-être la loi de la circulation, une loi générale de circulation, c'est qu'il faut conduire à droite. Mettez une deuxième loi générale qui dit qu'on peut conduire à gauche, il faut conduire à gauche. Ben, c'est pas facile hein, de concilier les deux. Et donc, si dans votre imagination vous dites, bon, ben, je conduis désormais à droite, tant que ça reste dans votre imagination, ça va à peu près. Mais dès qu'on va dans le concret, ça pose de sérieux problèmes. Et là aussi, disons, le concret de l'usage de deux lois universelles qui ne sont franchement pas du tout identiques, ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le concret dans une paroisse? Vous avez des fidèles qui vont dire ben, « moi je veux l'ancienne » et d'autres qui vont dire « moi je veux la nouvelle ». C'est normal qu'ils essaient de résoudre ce problème. Évidemment, nous, on vous donne autre chose. Nous, on vous donne dire eh bien, la nouvelle, allez, oui. Alors, voilà. Et puis, on garde l'ancienne. On espère bien qu'on y arrivera un jour, mais pour l'instant, ils n'en sont pas encore là. Mais ça, par rapport à l'affirmation première, cette messe n'a pas été abrogée, c'est vraiment secondaire. Évidemment, ça ne nous plaît pas. Évidemment, après, il y a toutes sortes de choses qui ne vont pas, comme de dire que les deux rites sont semblables ou que c'est la même messe. Ça, c'est l'évidence qui montre que c'est pas vrai. Enfin, il faut retenir ça. C'est vraiment un pas en avant. Un pas en avant dans le bon sens. Il faut le reconnaître. Alors maintenant, il faut que ce soit appliqué. Parce que si ça reste au niveau du droit, mais que dans les faits, il n'y a pas de correspondance, ben, ça fait un joli coup en l'air. Une loi qui n'est pas appliquée, bon, c'est une loi, mais il faut un peu plus. Il faut l'application concrète. Et là, évidemment, les évêques, les modernes, font tout leur possible pour rendre l'application impossible. Et donc, alors, pourquoi ne pas avancer? Eh bien, parce que si effectivement il y a quelque chose de bien qui a été fait, c'est-à-dire affirmer la pérennité de la messe tridentine, c'est pas suffisant, c'est tout. Alors de dire, bien, si ça suffit pour de nous-mêmes nous mettre dans le rang, ah ben non, pas du tout. Et là aussi, on a des applications pratiques. Voilà. Remercier au bon Dieu, bon, c'est peut-être un petit peu méchant de dire ça comme ça, mais c'est sans méchanceté que je le dis. Remercier au bon Dieu d'avoir donné des cobayes qui s'appellent les prêtres de la paroisse Saint-Pierre et les autres, qui eux font l'expérience concrète. Ce modo proprio, ils sont censés en bénéficier aussi, n'est-ce pas? Alors comment ça se passe dans la réalité? Ben, je crois qu'ici à Versailles, vous avez une application concrète, juste ces jours-ci, là. Ils ont été dépossédés de Notre-Dame des Armées, Saint-Pierre. Les prêtres de Saint-Pierre qui sont rentrés dans le diocèse, eux, continuent à garder ça. Puis les prêtres de Saint-Pierre, on leur donne une toute petite église, hein, je crois juste à côté d'un autre d'ailleurs. Mais écoutez, c'est ça l'église? C'est ça le développement d'église, le bien d'église? Franchement, c'est pas sérieux. Je veux dire, on se moque de nous. Enfin, c'est pas sérieux. Et bon, ça c'est un exemple concret. Mais quand on fait le tour du monde, ce que nous faisons, nous avons des rapports de tous les côtés, on voit que, eh bien, à part quelques très très rares exceptions, c'est ainsi qu'ils sont traités, ceux qui veulent la tradition. Et même par les autorités qu'ils sont censés découvrir, qu'ils sont censés les défendre. Quand vous avez le cardinal lui-même, le cardinal Castriol, qui est donc le responsable de Ecclesia Dei. Ecclesia Dei qui est là, dit-on, pour favoriser la tradition. Il fait une ordination, ça s'est passé cette année. Donc il va ordonner 4 prêtres de la fraternité Saint-Pierre, c'était au mois de juin. Donc il les ordonne dans l'ancien rite. C'est une société qui est censée avoir reçu cette permission de l'ancien rite. Et qu'est-ce qu'il leur dit pendant le serment d'ordination? Eh bien qu'il faudra qu'ils travaillent à bien s'intégrer dans le diocèse où ils travailleront, ce qui veut dire qu'ils devront concélébrer avec l'évêque la messe chrismale, et puis pour bien montrer cette union ecclésiale, cette charité ecclésiale, toutes les fois qu'il le faudra, il faudra qu'ils célèbrent la vraie messe. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous? On va faire la même chose? On dit, si c'est comme ça, ben, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine d'avancer. Et bon, ça c'est un exemple, mais encore une fois, on prend le monde entier et on voit que c'est comme ça. Donc si vous voulez, d'un côté, on voit très bien qu'on marque des points, donc on avance. Mais d'autre part, on voit aussi que on n'avance que parce que nous sommes fermes. Et que le moindre geste de faiblesse, il nous assomme, il nous met dans le rang des autres. Et on voit par exemple avec cette fameuse société des rédemptoristes, le pauvre supérieur des rédemptoristes, il s'est mis dans la tête que puisque le pape veut maintenant la tradition, donc il faut faire quelque chose. Il est allé à Rome, c'était vers Pâques. Donc il a dit, voilà, mais moi je le suis, puisque le pape veut que nous soyons de nouveau réintégrés, moi voilà, je le veux. Et bien jusqu'à maintenant, sa société n'est pas reconnue. La seule chose qu'ils ont obligé, c'est de changer de nom. Ils n'ont plus le droit de s'appeler rédemptoriste. D'après, c'est un peu plus cocasse, parce que un des prêtres qui a refusé, donc il reste avec nous, et qui est encore là-haut sur place, eh bien, c'est le seul qui s'occupe encore des fidèles, parce que ceux qui ont voulu aller avec Rome n'ont aucun pouvoir de juridiction sur les fidèles. Les évêques, donc d'Écosse, ont refusé, même d'une manière temporaire, de leur donner les pouvoirs. Et donc ceux qui ont voulu faire ce geste avec Rome se retrouvent sur leur île sans aucune permission même de s'occuper des fidèles dont ils s'occupaient jusque-là. Et donc c'est celui qui est resté avec nous qui fait le boulot. En fait, ça devient cocasse, hein. Et même les dernières nouvelles qu'il me donnait, c'était celle-ci. Il est très possible qu'ils soient obligés de quitter l'île parce qu'ils doivent trouver un évêque bienveillant qui veut bien les recevoir. Or, les évêques d'Écosse n'en veulent pas. Ils avaient une deuxième maison en Nouvelle-Zélande, même histoire. Quand vous voyez ça, vous dites, mais c'est évident, quoi. Il n'y a pas besoin de faire une grande démonstration pour comprendre pourquoi nous agissons comme nous agissons. C'est pas pour des raisons personnelles, pas du tout. Tout simplement parce que, eh bien, jusqu'ici, le bon Dieu a permis que nous soyons porteurs d'une cause qui est la cause de l'Église. Rien d'autre que ça. Et, eh bien, on en veut, excusez-moi l'expression, mais à mort, à ses porteurs. Et c'est une question de vie et de mort, de mort. Ça reste exactement ce que Monseigneur Lefebvre a dit au moment des sacres. Faire un accord, c'est un suicide. Ce que nous faisons, c'est une opération survie. Et bien, nous en sommes toujours à la survie. Et encore une fois, quelques éléments nous montrent qu'on avance, la survie s'organise, ça va un peu mieux, on survit un peu mieux. Un jour, encore une fois, faut être confiant, vraiment. On voit un Seigneur, quand même, c'est l'Église du bon Dieu, hein. C'est notre Seigneur qui est la tête de l'Église, qui est promis que l'Église tiendra le coup, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et donc, c'est nécessaire, c'est pas nous qui nous mettons en avant, c'est nécessaire, d'une nécessité de nature, c'est la nature de l'Église, c'est les promesses de notre Seigneur liées à cette nature de l'Église qui font que nécessairement, un jour, l'Église se retrouve sur ses rails, qui sont la ligne, le but donné par notre Seigneur, les moyens donnés par notre Seigneur. Ce à quoi nous sommes restés attachés, parce que tout simplement, nous n'avons pas changé. Eux, ils ont changé, eh bien, ils changeront une deuxième fois. Et cette fois-ci, dans le bon sens.
Seigneur, avant de vous demander votre bénédiction, nous constatons avec beaucoup de plaisir que venez à Villepreux, malgré vos lourdes charges. Vous êtes déjà venu l'an dernier, c'était plusieurs fois. Dites-nous bien simplement, qu'est-ce que vous attendez de ces associations, de ces artisans, de ces artistes, de ces communautés religieuses, de toutes ces familles qui sont ici représentées? Qu'est-ce que nous pouvons pour la tradition?
J'ai presque envie de vous dire la vie catholique tranquille. Peut-être qu'il faudrait plutôt dire, plutôt que tranquille, sereine, ardente, bien vivante. Il faut aller de l'avant. Le bon Dieu est avec nous et il n'a pas demandé aux apôtres de prendre la chaise longue. Il leur a demandé d'aller dans toutes les nations. Quelque chose à dire, bien au travail, tout simplement, catholiquement.
Alors, bénissez notre travail.